Donc Samuel va vous reparler un petit peu, va compléter le discours de Bernard sur le voyage, on va dire, du groupe produit Visual Studio. Et donc, vas-y.
Vous m'entendez ? Super. Bonjour à tous. Merci d'être là. Je vais passer après Bernard. C'est toujours difficile de passer après Bernard. C'est pas pour ça qu'on a mis la pause. C'est qu'il faut essayer d'être à la hauteur. Et surtout, je vais essayer de compléter un petit peu ce qui a été dit. L'idée de la session aujourd'hui, c'est d'aller un peu plus dans le détail de comment est-ce qu'on applique l'agilité et DevOps dans le groupe produit Visual Studio. Vous avez compris que le groupe produit Visual Studio, c'était un peu le groupe produit qui, en premier chez Microsoft, est passé à l'agilité et passé au DevOps et qui sert un petit peu de modèle, en quelque sorte, au sein de l'entreprise pour les autres groupes produits qui, petit à petit, suivent exactement le même chemin. Donc, je vais commencer rapidement par me présenter. Donc, je m'appelle Samuel Métias, je m'occupe de l'offre agile et DevOps chez Microsoft Service France. J'anime également la communauté DevOps au sein de la filiale et puis depuis le mois de novembre au sein de la corporation. Et j'ai choisi de vous présenter, puisque tous les speakers à partir de maintenant vont vous présenter leur citation. Et moi, j'ai choisi cette citation-là, qui est personnelle, simplement parce que, comme l'a dit Guillaume ce matin, et comme le dit notre chef à tous chez Microsoft, Satya, toutes les compagnies aujourd'hui, toutes les entreprises, sont des entreprises de software, dans le sens où le software est de plus en plus prépondérant dans la chaîne de valeur des entreprises. Et comme je pense, et nous pensons en particulier, que l'avenir de l'organisation des équipes informatiques passe par au moins l'application d'une partie des pratiques DevOps, eh bien, ça veut dire que demain, toutes les entreprises, pour produire de la valeur, quel que soit leur métier, vont nécessiter d'aller vers du DevOps et de l'agilité. Alors, avant de rentrer dans le détail des pratiques de Visual Studio à proprement parler, je voulais quand même vous proposer une petite introduction pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est allé vers du DevOps chez Microsoft et dans ce groupe produit. Alors, déjà parce qu'on n'est pas les premiers, on n'est pas les seuls. Vous connaissez tous le jeu Logo Quiz que vous avez peut-être sur vos téléphones, et pas de mauvais jeu de mots, ça existe aussi sur Windows Phone. Donc, quelques entreprises qui sont allées sur DevOps, vous l'avez retrouvé, Airbnb, bon celui-là tout le monde le connaît j'espère, Apple, celui-là suffit de lire le logo, Netflix, Uber, Facebook, Google évidemment, Amazon, celui-là vous le connaissez ou pas? Deezer, bravo, c'était peut-être le plus dur. Dailymotion, Tesla. Et Tesla est intéressant parce que c'est de l'industrie, c'est pas seulement du service. American Express, Criteo, celui-là personne connaît. Et celui-là, un peu plus compliqué, même si c'est écrit dedans, OVH. Donc pourquoi est-ce qu'on va vers du DevOps? Parce qu'aller vers du DevOps, ça marque son marché. Quand on met en place des pratiques DevOps, c'est souvent dans le cadre d'une transformation digitale ou numérique. Donc, quand on souhaite être plus agile, plus impactant dans sa transformation digitale et numérique, très souvent, on atterrit vers des pratiques agiles ou des pratiques DevOps. C'est aussi parce qu'on cherche à améliorer la collaboration. DevOps, vous l'avez compris, c'est collaborer entre Dev et Ops, mais c'est un triptyque, ce n'est pas un duo, c'est collaborer entre Dev et Ops et métier. Et si vous oubliez le métier, vous avez oublié la moitié de ce qu'est le DevOps. Et puis, c'est effectivement au cœur des transformations des entreprises et de la transformation numérique, y compris, bien entendu, chez Microsoft. Et donc, l'idée, c'est de se focaliser sur comment nous le faisons aujourd'hui. Très rapidement aussi, pourquoi est-ce que Microsoft va vers des pratiques DevOps? Parce qu'on pense qu'effectivement, les pratiques DevOps, c'est ce qui va apporter significativement de la valeur dans un certain nombre de scénarios. Là, il y en a 8 qui sont présentés. Effectivement, quand on va vers le cloud, alors le cloud n'est pas une nécessité pour faire du DevOps, mais c'est quand même un accélérateur formidable. Et quand on cherche à optimiser ses coûts, quand on cherche à réduire autant que possible le temps, le mean time to recover, c'est vrai qu'allier les pratiques DevOps avec du cloud, c'est un formidable accélérateur pour tirer de la valeur. C'est aussi le cas quand on va vers de l'agilité. Le DevOps est agile par nature. Et donc, quand on cherche réellement à réduire le time to market, pas seulement à le réduire au niveau des développements, mais jusqu'à la mise à disposition au client final, c'est là aussi qu'on tire de la valeur. C'est également le cas dans tout ce qui est mise à jour en continu. Et quand on dit mise à jour en continu, c'est-à-dire autant au niveau de l'infrastructure, du poste de travail, c'est-à-dire comment est-ce que je vais décorréler autant que possible l'adhérence applicative de la technologie, c'est aussi là-dessus qu'on a des sujets sur lesquels les pratiques DevOps apportent la valeur. Évidemment, tout ce qui va être application moderne, type universel, que ce soit du multi-device application, mais aussi de l'amélioration continue. Quand on est DevOps, on est centré sur l'utilisateur, donc on cherche en permanence à améliorer en fonction des feedbacks des utilisateurs. ordinateur. Et puis, et tous les scénarios mobiles. Il y a une étude IDC qui est sortie récemment qui montre que ça ne vient pas tout de suite à l'esprit quand on parle de mobilité, de parler DevOps. Et pourtant, c'est quand même un accélérateur formidable sur tout ce qui va être multi-device workstation, mais aussi tout ce qui va être qualité. Bernard l'a dit tout à l'heure, les pratiques agiles, les pratiques DevOps, c'est aussi ça apporte aussi une vraie plus-value en termes de qualité sur les produits. Alors, depuis tout à l'heure, je dis pratique DevOps. Alors, quelle est un petit peu la conception, si on essaie de schématiser les grandes pratiques DevOps qu'on peut retrouver de manière classique, mais également dans nos groupes produits? Il y a évidemment tout ce qui va être autour des méthodes agiles. On lie complètement l'agilité et le DevOps. C'est vraiment une continuité. Donc, toutes les méthodes agiles, tout ce qui va permettre en fait, de construire le produit, donc ce qu'on appelait build stratégie, mais ça comprend aussi la gestion des sources, la gestion des branches, toute cette stratégie pour réussir à fournir un produit qui soit de la meilleure qualité possible et qu'on veut mettre en production et donc fournir aux utilisateurs. Si on veut le mettre en production, c'est qu'on a un processus pour mettre en production, et donc on pourra en reparler. On passe évidemment encore par des environnements en T-prod avant d'arriver en production. Si on a des environnements en T-prod, et on va y revenir, bah ça veut dire qu'il faut les provisionner. Ça veut dire aussi qu'on a des données, et toute cette gestion des données entre les environnements, avec le cloisonnement des données utilisateurs qui est de plus en plus important et qui est notamment très important chez Microsoft, bah ça veut dire qu'on a une façon aussi de gérer les données entre les environnements. Si on a des environnements dans T-prod, c'est pour tester. Donc il y a toute une stratégie de test à avoir, avec toujours cette notion de vouloir accélérer en automatisant. Ça veut dire aussi qu'il faut impliquer les métiers. Impliquer les métiers, bah, ça veut dire que, comme DevOps, c'est un triptyque, je vous le disais tout à l'heure, on ne va pas impliquer les métiers pour le dev, puis ensuite impliquer les métiers pour s'assurer de que ce qui est en production était bien ce qu'ils avaient demandé au départ. On implique les métiers ensemble et on tire de la valeur de leur implication ensemble. Donc c'est une autre façon de s'intégrer dans l'application, enfin d'interagir avec les interlocuteurs métiers et de collaborer. Si on suit, donc ça c'est très important aussi, on va y revenir, ben on suit, on a un bilan de santé de tout ce qui se passe, on mesure tout ce qu'on peut mesurer pour s'assurer que tout se passe bien, et on mesure aussi tous les retours utilisateurs via de la télémétrie. Donc c'est pas les données utilisateurs, c'est les retours des utilisateurs, ce qu'ils veulent bien nous fournir comme information. Il faut être en capacité de les écouter quand l'utilisateur souhaite s'exprimer. Et donc il y a des mécanismes très importants qui nous permettent d'être à l'écoute en permanence des utilisateurs. Il y a aussi toute la notion d'automatisation avec l'infrastructure as code, donc la capacité de déterminer des infrastructures directement dans le code. Et donc, si on veut déterminer directement dans le code, pouvoir aussi aller ou non vers du cloud, c'est-à-dire se poser la question, est-ce qu'on en veut, est-ce qu'on n'en veut pas, est-ce qu'on veut du privé, du public, de l'hybride. Tout ça, c'est des stratégies, ça se définit et c'est important de le prendre en compte. Il ne faut pas oublier l'aspect sécurité. Tout ça, ça se fait de manière sécurisée. Ce n'est pas parce qu'on collabore plus qu'on le fait de manière moins sécure. Donc c'est très important de ne pas oublier cet aspect-là. Comme c'est important de se dire, bah oui, au niveau notamment des opérations et de la gestion des opérations, de tout l'ensemble des processus ITIL qui peuvent être implémentés notamment, eh bien, quand on va passer d'une mise en production potentiellement une fois par an à, pourquoi pas, une fois par minute, bah, il y a un certain nombre de processus qui vont changer, qui vont être impactés, qui vont à minima évoluer. Il faut savoir le prendre en compte. Et enfin, l'organisation. Bernard a beaucoup parlé d'organisation, je vous resynthétiserai ça très rapidement, mais effectivement, il faut aussi faire des choix d'organisation. Il y a plusieurs modèles possibles, il n'y a pas une organisation type. Donc aujourd'hui, on zoome sur Visual Studio, et on va zoomer notamment sur 8 pratiques en particulier, parce que dans le temps imparti, malheureusement, on ne va pas pouvoir tout voir. Donc j'ai sélectionné ces 8 pratiques en espérant qu'elles vous intéresseront toutes. La première, c'est tout ce qui va être justement l'interaction avec les métiers. Donc comment est-ce qu'on gère les besoins des utilisateurs? Donc je vais synthétiser parce que Bernard en a beaucoup parlé. En fait, ça reprend la pyramide, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau de la division, vous avez effectivement les grandes fonctionnalités, les fonctionnalités de type boîte, qui est la vision, voilà. La division souhaite aller vers tel ou tel type de fonctionnalité pour le produit. Et ça, ce sont des grandes guidelines sur lesquelles les gens vont s'accrocher. On a les fameux scénarios. Donc on va définir les grands scénarios, ce qui sont en fait des use cases, hein, vraiment les scénarios utilisateurs. Voilà, pour répondre à cette fonctionnalité, voici l'ensemble des scénarios qui doivent être implémentés du point de vue de l'utilisateur. Et ces scénarios, ils sont en fait, dans la pratique, redivisés en une notion qui s'appelle le MMF, le Minimum Marketable Feature. Quelle est la feature minimale auquel on peut discuter avec un client, la plus petite possible, qui garde de la valeur pour le client? Et c'est à partir de là que le product manager, avec son équipe, va pouvoir décliner ce minimum marketable feature en user story, c'est-à-dire en histoires qui peuvent être implémentées directement par les développeurs, mais aussi en test case, qui est en fait le corollaire direct du user story, qui va permettre, dans la stratégie de test pour aller en production, de s'assurer que ce qui a été développé correspond bien aux besoins utilisateurs initiaux. Et ça, c'est fait effectivement assez rapidement. Et c'est évidemment ces user stories qui sont ensuite déclinées en tâches quotidiennes que les équipes mettent en œuvre. Mais comme je vous le disais, avoir une vision globale et avoir des guidelines qui viennent du groupe produit, c'est bien, c'est pas suffisant. Ce qui est absolument fondamental, c'est aussi d'être à l'écoute et de recevoir du feedback. Donc ce feedback, il est aussi implémenté dans la façon dont sont gérés les besoins. Et notamment, en fait, ils vont être déclinés directement au niveau des MMF. Ça veut dire que ça va arriver directement jusqu'au product manager. Et comme il y a une certaine autonomie, le product manager va pouvoir intégrer dans son plan de release, dans ses itérations, directement des minimum marketable features qui viennent de l'écoute des utilisateurs. Et ces minimum marketable features, dans un premier temps, ils sont à la main du program manager qui va pouvoir commencer à les spécifier, à les mettre dans son plan de release. Et puis, dès qu'ils sont prêts, c'est avec l'équipe qui est décidé comment elles vont être implémentées. L'équipe va les prendre en charge et va progresser dessus jusqu'à un moment où elles vont être considérées comme complètes. Une fois complétées, et seulement à ce moment-là, il y a une discussion avec le release manager qui permet de les shipper, donc de les mettre dans le produit. Et tout ce qui n'est pas shippé n'existe pas. Donc, pour vous donner une idée de niveau de confidentialité, tant que ce n'est pas shippé, vous ne pouvez pas en entendre parler. C'est strictement interne à Microsoft. Dès que c'est shippé, potentiellement, il peut y avoir de la communication dessus, et c'est qu'une fois shippé que ça va rentrer dans les différentes branches qui vont permettre au produit, qui vont permettre de livrer ça dans le produit final à destination des clients de Microsoft. Les MMF, c'est qu'une partie, il y a toute l'organisation des itérations. Alors là, je vais aller très vite parce que Bernard a complètement spoilé ma session, donc je vais être obligé d'aller un peu plus vite. Mais globalement, ce que je voulais vous dire, c'est que le cycle d'itération est exactement celui qu'il a décrit. À partir des MMF et des dashboards, on va rentrer dans le cycle d'itération en 4 semaines. Alors avec un cycle d'itération en 4 semaines, c'est quand même particulier. C'est 3 semaines en fait agiles, donc les équipes de développement sont sur des itérations de 3 semaines. La 4e semaine est liée au déploiement. Donc c'est des itérations DevOps avec 3 semaines de dev, une semaine plutôt orientée Ops. Mais comme on est en DevOps, c'est suivi au quotidien. Ensemble, c'est-à-dire que les daily stand-up, aujourd'hui, dans le groupe produit Visual Studio, y a les ops qui sont là, et on suit autant ce qui va être développé au cours de l'itération que les incidents qui sont en production ou les anomalies qui sont en cours. Et ça, c'est suivi en commun. Et donc, même si les équipes de dev repartent sur la 4e semaine sur une nouvelle itération, il y a un suivi quand même pendant l'itération de déploiement, et tout ce qui est produit au cours de cette itération est effectivement déployé dans le produit. En tout cas, il y a un arbitrage pour qu'il y ait systématiquement des choses qui soient déployées dans le produit. Donc si on dit que c'est déployé dans le produit, on est dans un groupe produit qui est un peu particulier et qui sert de modèle, c'est que le groupe produit Visual Studio, vous avez un produit qui s'appelle Visual Studio Online, qui a été renommé en Visual Studio Team Services très récemment. Et c'est le même produit pour la partie cloud, donc produit SaaS, que pour le produit en boîte que vous pouvez avoir sur CD et que vous pouvez installer. Ils partagent le même code. Donc le code source est complètement partagé. Tout ce qui va être les long-term features, il va y avoir une branche spécifique. Les long-term features, en fait, ça correspond aux feature teams, aux équipes qui itèrent et qui produisent des features. Ces features sont remontées dans le code source global. Et là, vous avez deux branches globalement. Vous avez tout ce qui va être gestion des anomalies, des correctifs, où là, vous pouvez avoir plusieurs déploiements par jour. Donc, vous avez une branche spécifique qui est short term pour tout ce qui est mise à jour. Dans le cloud, ça va être délivré en continu, plusieurs fois par jour si nécessaire. Et ça va être, comme l'a un petit peu montré Bernard avec ses histoires de package, ça va être packagé dans une branche spécifique pour sortir des correctifs sur la branche TFS. Et dans le même temps, tout ce qui va être nouvelle feature, tout ce qui va être un peu plus long terme, c'est également packagé dans une branche commune qui va ensuite être toutes les 3 semaines déployée dans le cloud. Donc vous avez une livraison toutes les 3 semaines, les fameuses 3 itérations dans la version online. Et puis tous les 3 mois, vous avez une version packagée qui est en fait strictement identique en termes de fonctionnalité à ce qui a été délivré dans les 3 mois précédents sur la version online, qui va être packagé, qui va donner lieu à une mise à jour de la version boîte. Donc un système un peu particulier de branches sur la façon dont gère tout ça dans le groupe produit Visual Studio. Une fois que tout ça est prêt à être déployé, Bah, encore faut-il le déployer. Un produit comme Visual Studio Online, c'est un produit qui est dans le cloud worldwide. Et donc, c'est déployé via des anneaux, des rings. Donc, c'est les premiers au sein de Microsoft à avoir lancé ce système de rings. Ça veut dire qu'on ne déploie pas tout d'un coup sur l'ensemble des data centers. On va déployer petit à petit. Et à chaque anneau, on va vérifier que tout fonctionne bien. Et si quelque chose ne fonctionne pas, on va le corriger avant de passer à l'anneau suivant. Donc, on déploie d'abord sur un premier data center qui est celui de San Antonio. C'est le data center qui est réservé aux équipes produits. Parce que Visual Studio, bah, vous l'avez compris, c'est utilisé pour développer Visual Studio. Donc, ils sont à la fois consommateurs et producteurs de leur outil. Et donc, ils vont d'abord déployer les nouvelles versions pour eux-mêmes et s'assurer que tout fonctionne bien en premier lieu. S'il y avait un souci, il y a évidemment des mécanismes de rollback qui existent. Le problème du rollback, bah, c'est que quand vous faites un rollback, vous perdez les données entre le déploiement et le rollback. Heureusement, c'est jamais arrivé dans l'histoire du groupe produit, sauf une fois sur le data center dédié à Microsoft. Donc, dans toute l'histoire de Visual Studio, il y a eu un seul rollback. Sinon, en général, quand une anomalie est détectée, elle est corrigée avant de passer sur l'anneau suivant. Et ça, c'est le cas le plus fréquent. L'anneau suivant, ça va être l'anneau insider, tout ce qui va être early adopter. Donc, ça va être plus largement l'entité de Microsoft et puis potentiellement des entités externes qui ont souhaité essayer le produit. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'un anneau n'est pas égal à un data center, mais vous pouvez avoir plusieurs data centers dans un même anneau. Et en fait, plus vous allez élargir l'anneau, plus vous allez avoir de data centers déployés, plus vous allez avoir d'utilisateurs qui vont utiliser les nouvelles versions. Et donc, pour info, Paris, je crois que c'est le data center, ça doit être Amsterdam, et ça doit être le cinquième anneau Visual Studio. Ma capture d'écran était un peu ancienne. Il y a Release Management Online qui a été délivré depuis et c'est le produit qui aujourd'hui est utilisé actuellement dans le groupe produit pour déployer les nouvelles versions. Il passe par l'outil interne de Release Management qui aujourd'hui est dans le cloud. Évidemment, avant de déployer, il y a toute une série de pratiques autour des tests. Parce qu'on s'assure quand même que tout fonctionne le mieux possible avant de commencer à déployer, même sur le data center réservé au groupe produit. Aujourd'hui, les tests sont organisés sur 4 niveaux et le plus automatisé possible pour justement accélérer. Le premier niveau, alors que les tests sont organisés autour du MMF, et le premier niveau, bah, c'est tous les tests techniques autour du MMF. Donc on va tester en fait tout ce qui est test unitaire, tout ce qui est test de code. Ça va être complètement automatisé, les test cases de technique sont complètement automatisés et en général, on est sur un temps inférieur à 5 secondes pour dérouler la totalité des tests techniques sur un MMF. Une fois les tests techniques réussis, on va faire les test cases. Donc là, en fait, on va tester le MMF avec l'ensemble de ces données, les VSSI, etc. On va tester vraiment le scénario qui correspond en termes de test au user story qui a été développé. Et là, pareil, c'est complètement automatisé et on est sur des temps d'exécution autour du MMF du même ordre, c'est-à-dire inférieur à 5 secondes. Quand on a tout ça, on peut commencer à faire des vrais tests fonctionnels et c'est vraiment le test qui est fait à un moment où le MMF est complet. Avant d'être shippé, donc le test fonctionnel, lui, il est semi-automatique. On teste un maximum de choses automatiquement. Le MMF, tous les services qui peuvent être consommés par le MMF, tous les services dont on a besoin pour pouvoir exécuter le MMF. Donc il y a un petit peu de config, de paramétrage qui peuvent être faits à la main, mais le maximum est automatisé. Et là, en général, en moins de 5 minutes, vous avez testé la totalité du MMF que vous souhaitez shipper. Et puis, bah, comme je vous le disais, une fois que c'est shippé, bah, ça part en production et ça part sur le premier anneau. Et quand on est sur le premier anneau interne au groupe produit, il y a un ensemble de tests qui sont faits, qui sont des tests en production, où là, on automatise tout ce qu'on peut, mais il y a aussi des choses qui peuvent être faites de manière manuelle, ne serait-ce que pour aller sur du test exploratoire d'interface ou des choses comme ça. Et donc là, un MMF est testé en environ une demi-heure en moyenne. Je continue. Si on passe tout ça... Comme je vous le disais, ce qui est très important, c'est de suivre. Donc, on a au sein du groupe produit Visual Studio, on a un dashboard qui permet de faire un peu le bilan de santé en temps réel de la totalité des services. Donc, on a toute une série d'indicateurs qui sont suivis en temps réel, que ce soit des indicateurs de performance, que ce soit l'activité, que ce soit l'usage du consommateur, donc tout. Voilà vraiment quelque chose de très complet. On pourra le détailler si vous avez des questions dessus. Mais c'est très précis. quand on parle des traces, par exemple, tout à l'heure, Bernard vous montrait ce qui est en fait de l'A/B testing, c'est-à-dire la capacité de déployer sur un utilisateur ou sur un groupe utilisateur une fonctionnalité et pas sur une autre. On est aussi capable aujourd'hui dans Visual Studio d'aller très loin dans la trace, puisque quasiment à chaque connecteur logique dans le code, on peut l'activer et tracer ce qui se passe pour pouvoir détecter une anomalie ou comprendre un bug et le corriger. Donc c'est aujourd'hui extrêmement précis dans l'exécution et le bilan de santé du produit. Mais avoir un bilan de santé, ce n'est pas suffisant. Savoir que tout se passe bien, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça qui va vous permettre d'entendre ce que l'utilisateur demande, puisque même quand tout va bien, on peut avoir des feedbacks de l'utilisateur. Et comme on est en DevOps, on va chercher à vraiment être complètement à l'écoute de l'utilisateur, à vraiment chercher à l'entendre, à utiliser tous ses sens pour l'entendre. Donc, on commence toujours par lui permettre d'avoir des mécanismes de feedback, donc d'être à son écoute. Vous avez aujourd'hui dans les produits Visual Studio et Microsoft en général des petits smileys sur lesquels vous pouvez cliquer pour dire vous êtes content, pas content et mettre un feedback. Il faut savoir que ce type de retour est directement pris en compte par les programmes managers dans les groupes produits qui peuvent, via un outil qui s'appelle Connect, être remontés, créer les MMF correspondants et l'intégrer dans leur plan de release. Donc aujourd'hui, les feedbacks sont remontés, sont à l'écoute et sont remontés jusqu'au programme manager correspondant. Il y a quelques strates quand même pour vérifier les commentaires, etc. S'il y a des anomalies, voir si c'est reproductible. Mais ça va très très vite via l'outil Connect. Les différentes étapes sont tracées et ça remonte jusqu'au programme manager concerné. Il y a évidemment tous les feedbacks qu'on peut avoir aussi en interne. Le marketing, les commerciaux, ceux qui vous parlent, qui vous écoutent, qui vous disent achetez notre produit, vous dites non pour telle ou telle raison. C'est des feedbacks qui sont remontés et qui sont pris en compte. Donc on a aussi, on regarde les besoins de l'utilisateur, on n'est pas aveugle face à ces demandes. De la même manière, il y a toutes les séries de démonstrations. Donc il y a les démonstrations en vidéo qui sont internes, mais il y a aussi la possibilité de déployer des fonctionnalités sur un groupe en particulier, sur quelques utilisateurs, et puis peut-être la même fonctionnalité déployée d'une autre manière sur un autre groupe d'utilisateurs. Et puis on peut mesurer l'usage, l'adoption, la façon dont réagissent les utilisateurs, et donc sentir un petit peu ce qui est plus prioritaire ou qui ne l'est pas sur quelque chose où on n'a pas forcément eu de feedback, mais on a pensé que c'était une bonne idée. Donc tout ce qui est mécanisme d'A/B testing, c'est des choses qui aujourd'hui sont faites et qui permettent justement de savoir ce qui correspond et ce qui ne correspond pas. Il y a aussi la voix de l'utilisateur, vous connaissez peut-être, mais il y a toutes les plateformes d'User Voice aujourd'hui, donc des forums sur lesquels vous pouvez proposer des fonctionnalités, sur lesquels les autres utilisateurs peuvent voter. Et ces forums, ils sont consultés par les programmes managers, ils regardent, ils font parfois eux-mêmes des commentaires, parfois c'est des équipes dédiées, et ils sont pris en compte dans les produits. Donc la capacité aussi de s'exprimer, de donner la possibilité de s'exprimer en groupe. Il y a aussi des mécanismes qui permettent d'aller voir sur les réseaux sociaux ce qui est dit à la sortie d'un produit, par exemple, et d'en tirer du feedback. Donc tous ces mécanismes de télémétrie sont absolument fondamentaux aujourd'hui chez Microsoft et drivent énormément les évolutions des produits. Et enfin, il y a aussi tout ce qui va être la maintenance. Quand vous avez des bugs, quand vous avez des crashs, quand il y a des rapports qui vous sont proposés d'être envoyés, ces rapports, ils sont pris en compte. Ils arrivent vraiment jusqu'au groupe produit et ils sont pris en compte dans l'évolution quotidienne du produit. Donc, j'insiste 2 minutes là-dessus sur la différence entre méthodes agiles et DevOps. Globalement, quand vous êtes en méthodes agiles, vous avez des gens dans l'entreprise qui regardent ce qui se passe et qui peuvent vous remonter des feedbacks. Vous avez des démonstrations, soit internes avec des utilisateurs, quand vos utilisateurs sont internes, soit vous pouvez mettre en place de la télémétrie. Vous avez tout ce qui est possibilité d'interagir et d'écouter le client via des commentaires, des plateformes, ce genre de choses. Ça, c'est des choses qu'on trouve assez classiquement aujourd'hui dans l'implémentation des méthodes agiles. Mais vous n'allez pas forcément vers des choses qui sont plus orientées ops, tels que le support ou la maintenance. Et quand on est en DevOps, on cherche vraiment à avoir la totalité des feedbacks, c'est-à-dire y compris si vous transposez ça dans une organisation chez un client, les ingénieurs support qui répondent et qui ouvrent des tickets d'incident, qui ont les clients au quotidien au téléphone, c'est important aussi de prendre en compte leur feedback. Donc le DevOps, c'est vraiment être totalement à l'écoute de l'utilisateur, utiliser ses 5 sens et pas seulement une partie. Et pour terminer, parce que j'ai débordé, l'organisation, je vous le fais en 2 mots, puisque Bernard a pas mal insisté là-dessus. Simplement, ce qu'il faut retenir, si je cherchais à synthétiser, c'est qu'effectivement, on a des organisations hiérarchiques qui sont différentes. Les devs et la qualité ont mergé dans une équipe qui aujourd'hui s'appelle Engineering, mais il y a une équipe qui existe, qui va autour de la télémétrie de plus en plus, qui va permettre avec des data scientists de rechercher à, à remonter les bons feedbacks et à mesurer les bonnes informations pour avoir les bons retours des utilisateurs. Et c'est en agrégeant de manière multidisciplinaire ces équipes qu'on construit les feature teams. Les ops restent encore dans une hiérarchie un peu à part, mais ils sont en forme de hub. Ça veut dire que les équipes aujourd'hui ont des interfaces privilégiées avec les équipes opérations. Ils vont avoir un interlocuteur privilégié qui peut être le même pour plusieurs équipes et ils vont suivre ensemble au quotidien les anomalies, les problèmes en production, etc. Donc c'est vraiment un mode hub qui est mis en œuvre aujourd'hui avec effectivement les astreintes qui sont de toute façon chez les ops traditionnellement et de plus en plus chez les devs. Alors aux États-Unis c'est totalement le cas. C'est vrai que dans certains pays comme la France, il y a des législations un peu plus contraignantes et donc c'est en train de mettre mis en place petit à petit quand les feature teams ne sont pas directement localisés aux États-Unis. Mais c'est vraiment un objectif qui se répand aujourd'hui avec cette capacité de suivre ensemble la totalité de l'évolution du produit jusqu'à sa mise en production.